Eh bien, nous allons recommencer cette séance. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Guillaume Alinier, qui est donc physicien, il va se présenter plus complètement tout à l'heure, mais qui est docteur en pédagogie, et qui travaille au Qatar. Et puis le docteur Wanda Abirad, qui est, elle, anesthésiste, et qui travaille donc à Beyrouth, au Liban. Ouais. Eh bien, vous avez la parole.
Bonjour tout le monde. Je m'appelle Wanda Abirad, je suis anesthésiste de formation. Et je travaille à la Lebanese American University. C'est une nouvelle école de médecine qui est au Liban, à Beyrouth. Je suis la vice-doyenne pour la formation continue, médicale continue, et la directrice du centre de simulation. Je suis vraiment ravie cet après-midi d'être avec vous parce que j'aime beaucoup l'échange entre vous, les Français, nous, les Libanais, qui, en grande partie, on est francophones, et aussi d'ajouter un autre contexte de M. Aligné. Je suis d'autant plus ravie de présenter avec lui. On va faire comme le piano à quatre mains, parce que c'est un ami au Libanais, il vient souvent chez nous. Et je vous passe la parole, Guillaume.
Merci, c'est aussi un plaisir. Merci pour les organisateurs de m'avoir invité, en fait, dans ma ville natale, parce que je suis canet d'origine, et après j'ai immigré quand j'avais 20 ans. Je suis couramment directeur de recherche au service d'ambulance à Hamad Medical Corporation, et aussi professeur de simulation en santé à l'université de Hertfordshire en Angleterre.
Voilà, on a été aussi optimiste. On va tout couvrir en 25 minutes. Mais en fait, on s'est dit que Dr Grant va être avant nous et va couvrir pas mal de choses. Donc là, on a été un peu malin. Bon, comme vous savez tous, il y a eu une croissance internationale et une grande croissance internationale dans les initiatives utilisant la simulation en général. Cependant, il y a une faible focus ou emphase sur les compétences non techniques, ce qu'on appelle les human factors, dans les cursus en santé. Et c'est quoi ces facteurs humains? Apparemment, ils sont la cause de nombreux événements indésirables, que ce soit au niveau des problématiques d'équipe, de mauvaise communication, des comportements à risque. Et l'Institut international de médecine, le IOM, en 1999, il a rapporté un rapport assez alarmant disant qu'à peu près 100 000 patients par an ils sont décédés d'erreurs médicales aux États-Unis et qu'ils sont morts par des erreurs médicales qui ont pu être préventables. Et après, ils ont demandé à faire de plus en plus de la simulation. Ça, c'était en 1999. Mais vous voyez ici que même maintenant, en 2016, il y a ce rapport qui est aussi alarmant, qui dit que l'erreur médicamenteuse ou l'erreur médicale, c'est la troisième cause de mort aux États-Unis. Et aussi ce rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique en 2017, qui est très récent, et qui dit que 15% des dépenses de santé sont liées à la prise en charge des événements indésirables associés aux soins, et donc 40% seraient probablement évitables. Et si on analyse un peu les root cause analysis des événements sentinelles, on trouve que les human factors occupent la première place. Donc, c'est quoi ces facteurs humains qui nous causent beaucoup de soucis? Les facteurs humains sont d'abord peuvent être liés à la complexité des tâches, l'importance. C'est-à-dire, si on a, pour un anesthésiste, un chirurgien ou un urgentiste, quand c'est vraiment il y a la vie en jeu d'un malade, et si maintenant, de plus en plus, il y a des implications médico-légales quand il y a un malade critique. Le deuxième facteur humain qui est excessivement important, c'est l'individu. Moi, je suis anesthésiste, je sais très bien que si je fais la garde toute la nuit et que le lendemain, on me fait travailler, je suis en colère, je suis fatiguée. Si mes enfants ont des notes épouvantables à l'école, je suis fatiguée et je suis stressée. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui font que l'individu, c'est vraiment subjectif, mais plus on est inexpérimenté, plus on est émotif, Ça, ce sont des facteurs qui affectent le quotidien de nous comme médecins, infirmières, pharmaciens, tous les individus qui ont rapport avec les malades. L'environnement, il est très important. Les gens qui travaillent dans les urgences et dans les blocs opératoires, ils savent très bien quand il y a beaucoup de bruit, quand les gens, surtout le bruit des gens qui se parlent, qui se chahutent, surtout dans les salles d'orthopédie. Je ne sais pas s'il y a des orthopédistes ici. Et surtout dans les transferts et quand il y a des équipements qui sont nouveaux. L'équipe aussi est très importante parce que souvent on travaille en équipe, la plupart du temps on travaille en équipe et parfois il y a des problèmes relationnels. Qu'est-ce qu'une crise ? La crise, c'est un moment dangereux, généralement très bref et intense, mais qui peut engendrer des graves conséquences. La crise nécessite une réponse active, rapide, hyper rapide, pour éviter des dommages aux patients. Et malheureusement, une crise ne se résout pas sans intervention. Donc, le principe évident, c'est qu'il est plus simple d'éviter des problèmes que d'avoir à les résoudre. D'où l'importance du principe de Crisis Resource Management. Je ne vais pas aller dans tout ça pour ne pas prendre le temps, mais bien sûr, les principes importants du Crisis Resource Management, c'est surtout d'anticiper, de planifier, de prévenir, de bien communiquer dans une équipe, de travailler en équipe, de distribuer les ressources et de distribuer surtout les rôles. Et quand on parle des principes du Crisis Resource Management, on ne peut pas faire aucune formation dans le Crisis Resource Management. Il faut que ça pour des individus ou dans des spécialités. Il faut absolument que ça soit en interprofessionnel. Et je passe la parole maintenant à Guillaume. Merci.
Donc le principe clé en fait pour ça, c'est d'enseigner déjà aux participants, aux apprenants en fait à propos de CRM. Donc la simulation interprofessionnelle, engagement des apprenants de plusieurs professions dans une même activité, au contexte plausible où ils travaillent ensemble. Aux besoins d'un ou plusieurs patients. Donc ça dépend aussi des modalités de simulation qui sont utilisées. Facilitation par une équipe multiprofessionnelle, de préférence formée à la simulation, qui est clé spécialement pour la phase de debriefing. Debriefing qui encourage les apprenants à prendre en compte le point de vue et à comprendre le rôle des autres professionnels de la santé. C'est aussi un point très, très important. Donc j'ai dit que il y a par contre plusieurs obstacles. J'ai fait plusieurs projets interprofessionnels dans le domaine universitaire, aussi en formation continue. Ce sont aussi des points qui ont été exprimés hier à l'ouverture avec les premiers intervenants. Il y a toujours des problèmes avec des emplois du temps des apprenants, des emplois du temps des facilitateurs, le manque de facilitateurs qui sont formés en fait à la simulation, au debriefing. Généralement, le nombre d'apprenants, surtout dans les cursus universitaires, mais des grandes cohortes d'étudiants, que ce soit en soins infirmiers, en médecine ou dans les autres professions paramédicales. Les ressources requises pour faire la simulation. Les objectifs pédagogiques qui doivent être appropriés en fait à plusieurs professions, hein, plutôt que de favoriser une profession ou l'autre. Financement aussi peut être un problème. J'en discuterai brièvement sur un des exemples que je vais présenter. Et des scénarios debriefing qui défavorisent une profession. Et ça, c'est d'où l'importance en fait d'avoir une équipe de formateurs qui est multiprofessionnelle pour qu'il y ait une représentation des différents, que tous les apprenants soient représentés en fait par les formateurs pour pas qu'ils se sentent utilisés. Ça, c'est du feedback que j'ai reçu des étudiants parfois où j'ai eu des sessions où il y avait que des médecins qui facilitaient la session et il y avait beaucoup d'étudiants infirmiers, mais le debriefing, le médecin en fait donnait plus de part aux étudiants en médecine en adressant très peu en fait les soucis des étudiants en soins infirmiers. Ça, ce sont des points en fait, qu'on fait sur le livre qu'on a publié en début d'année avec Denis Oriot. Donc, rendre la simulation interprofessionnelle possible. Le but, c'est vraiment de former ensemble ceux qui vont actuellement ou qui travaillent déjà ensemble. En phase sur le CRM, dans toutes les sessions de simulation, c'est un, principalement, en fait, si on se concentre sur les, l'aspect non technique, travail en équipe, plutôt que sur les, l'apprentissage des gestes techniques, où généralement c'est fait un apprenant se concentrant sur un geste à chaque fois. Valorisant le rôle de l'observateur, c'est clé, parce que moi-même, je suis tombé dans le piège, toujours, quasiment, c'est d'essayer de donner à part égale pour tous les étudiants la chance d'être, de prendre part à un scénario. Mais en fait, il y a de plus en plus de recherches qui montrent que ce n'est pas nécessairement le plus important. Le plus important, en fait, c'est observer et prendre part au debriefing qui suit l'expérience. En fait, se servir de l'expérience, du scénario qui a été joué par les apprenants et discuter ça avec tout le monde. Donc, en fait, il n'y a pas besoin que tout le monde ait eu un rôle actif dans le scénario. Engagement de tous les apprenants dans le debriefing, c'est clé. Donc, s'assurer qu'ils ne soient pas en train de dormir au fond de la salle pendant que le scénario se déroule ou pendant le debriefing. Considérer les diverses modalités de simulation. Donc, tout n'a pas besoin d'être à échelle réelle. Il y a d'autres formes de simulation qui peuvent être employés aussi, qui sont parfois moins coûteuses. Et regardez en fait par rapport aux objectifs pédagogiques requis. Donc le but, c'est vraiment que tout le monde apprenne pour le bénéfice du patient. Donc là, c'est une photo en fait où on peut voir des étudiants avec différents uniformes qui sont des manipulateurs radiographiques, des paramédics, des infirmiers et d'autres. Donc un exemple que j'avais eu une bourse par la Higher Education Academy en Angleterre pour 3 ans pour faire un projet. J'ai eu aussi une bourse de l'université et on avait un module IPE, d'interprofessional education pour les étudiants en dernière année, sur 10 professions différentes, environ presque 700 étudiants à travers les 10 professions par an. Le projet avait duré 3 ans. On a réussi à recruter des volontaires sur le projet. Il y a eu 237 participants, total de 30 sessions de simulation, donc un nombre restreint de participants par session. Un grand encadrement de formateurs. On était parfois autant de formateurs que de participants aux sessions. Donc c'était très coûteux en temps, très onéreux et aussi par rapport aux facilités utilisées. Et pour un résultat, de passer 13-14% seulement de la cohorte d'étudiants. Donc c'est pas très efficace. C'est là en fait qu'après on s'est dit, on ne peut pas continuer à le faire comme ça. Il faut en fait ouvrir. Laisser 50, 60 étudiants observer les sessions à la fois, même s'il n'y en a seulement que 10 qui arrivent à actuellement prendre part au scénario. Donc on a fait une petite étude, ça a été publié, il y a eu une mesure avant et après expérience. On a pu démontrer que les étudiants ont acquis des connaissances sur les rôles des autres professions et aussi ils ont beaucoup plus apprécié les opportunités interprofessionnelles. Et donc, ça a donné plus de valeur en fait, aux approches de simulation. Je repasse le micro à Vanda pour notre exemple.
Alors, au Liban, qu'est-ce qu'on fait? Comme je vous ai dit avant, la Lebanese American University, c'est une nouvelle école de médecine, de pharmacie et de nursing. Et ils ont un IPE group, Interprofessional Education Group. Et on doit ça parce que la doyenne de la faculté de nursing était une Américaine. Donc elle était venue avec ce projet de IPE qu'elle a mené et qu'elle a eu beaucoup de bourses pour le faire. Et donc ce groupe, il est très actif. Ils ont déjà fait en 2016 la première conférence au Liban de IPE. Et maintenant, ils en font une... Ce mois-ci, en avril, ils font 3 jours, dont une journée entière, et va se passer dans le centre de simulation. Donc le rôle de ce groupe, c'est dédié à faciliter la sensibilisation du travail interprofessionnel pour les étudiants, les professeurs et pour les membres du personnel. Les étudiants, ils sont des étudiants en pharmacie, en nutrition, en médecine et en nursing. Et ici, je montre aussi les facilitateurs, aussi, ils sont de différentes professions. Comment ils font le programme? C'est un programme qui est établi, qui se fait en 5 étapes. Donc, l'étape 1, c'est l'introduction à la collaboration interprofessionnelle. Après, c'est la communication interprofessionnelle. Après, c'est le travail d'équipe et la résolution de conflits. L'étape 4, c'est l'amélioration de la sécurité et la qualité de soins grâce à la collaboration interprofessionnelle. Et l'étape 5, c'est surtout l'étape d'éthique par une approche interprofessionnelle. Et donc, c'est une série de 5 ateliers d'une demi-journée qui sont obligatoires, qui sont dans le cursus, qui sont dans un cursus longitudinal, qui est livré sur 2-3 ans, et ça dépend selon la profession. Et il y a 3 niveaux d'entrée intermédiaire ou avancée, et c'est un mélange de didactique et de pratique. Alors, nous, le centre de simulation, on l'a vu, on l'a dit, il faut une étape supplémentaire, il faut faire de la simulation. Et ce n'est pas une étape 6, c'est une étape qui peut se passer à partir de l'étape 4. Donc les étudiants qui sont plutôt dans le niveau avancé, par exemple les étudiants de médecine en 6e ou en 7e année, les étudiants infirmiers ou infirmières qui sont en dernière année, donc c'est en pharmacien, les pharmaciens qui sont en 4e ou 5e année. Donc des gens qui ont déjà une petite expérience de travailler avec les malades, qui sont déjà allés à l'hôpital. Ces gens-là, on les recrute pour faire de la simulation. J'ai la chance de travailler dans un très beau centre de simulation qui a été accrédité maintenant en janvier 2018 par le Royal College de Canada, the Physicians and Surgeons of Canada. Et je vous dis sincèrement, le plus grand atout, c'était qu'il y avait du travail interprofessionnel. Et ça, ce n'est pas seulement les Canadiens, mais aussi maintenant pour l'accréditation des centres, il y a le CESAM, qui est la société en Europe pour la simulation, et le SSH, la société américaine. Et ces 3 entités, ils veulent que les centres accrédités aient une bonne qualité et quantité en nombre, en pourcentage de travail interprofessionnel. Donc, dans le centre où je travaille, on a plus que 25% de notre travail qui est en interprofessionnel. Et les cours qui sont répétés très fréquemment, c'est des cours de American Heart Association, c'est des cours de Basic Life Support ou de Pediatric Advanced Life Support. Et on amène les gens en groupe, pas seulement les médecins, on les amène des groupes d'étudiants ensemble. Et il y a le diplôme en simulation clinique, et ça c'est le diplôme, c'est la 3e année qu'on est en train de le délivrer. C'est le premier diplôme dans la région des pays arabes. Guillaume est l'un des instructeurs, il se fait sur 1 an. Et ce diplôme, il est délivré à des instructeurs en simulation, et qui sont de plusieurs professions. Donc on prépare, comme il a dit Guillaume, c'est très difficile de faire le debriefing pour les apprenants qui sont de différentes professions. C'est pourquoi aussi il faut faire du faculty development pour ces instructeurs, et c'est ce qu'on fait. Donc les scénarios qu'on fait souvent, c'est les soins d'un patient à haut risque. Maintenant, nouvellement, on fait le triage en terrain de catastrophe. Et on fait beaucoup de crisis resource management en interprofessionnel, et maintenant on a commencé à les délivrer à la communauté. Et c'est surtout des équipes, on n'accepte que des équipes, et ce n'est pas des hôpitaux universitaires, on veut vraiment faire du bien à la communauté, amener les gens de la périphérie, des gens qui n'ont pas beaucoup de ressources. On amène ces équipes, c'est gratuit, enfin on parle avec des sociétés de médicaments, eux ils amènent. Ils paient, ils amènent les participants, donc ils viennent. On travaille 2-3 jours pour faire, par exemple, des cours sur la néonatologie, CRM en néonatologie, en anesthésie, en pédiatrie. Et je vous assure, on se sent bien après. On sent qu'on a fait du beau travail pour la qualité de soins des malades. Juste pour vous dire comment ça se fait en pratique, une séance. Ici, on amène les étudiants, c'est des petits groupes, pas plus que 10 en général. On leur donne 10-15 minutes dans le lounge et avec un petit repas pour qu'ils fassent connaissance, parce que pas souvent, parce qu'on veut vraiment qu'ils se lient, qu'ils savent au moins le nom des autres, qu'ils parlent un peu avant. Et après, il y a le pre-briefing, il y a le scénario, le debriefing, et après, ils sont contents, ils ont un petit diplôme qu'on leur donne. Je ne vais pas vous lire tout ça, mais juste pour dire, ça vient du website du IPE Group, et il y a des mots qui se répètent, c'est la collaboration, c'est le listening, c'est on a appris à écouter l'autre, on a appris l'importance de travailler avec l'autre. Et ça nous fait du bien, nous, les instructeurs, quand on écoute des testimoniales comme ça. Bon, ils sont, eux, contents, mais est-ce que nous... Et nous, on est contents, mais est-ce que... En réalité, on a fait on a vraiment avancé la qualité de soins. On a fait cette étude pilote. On voulait étudier les connaissances des élèves et l'auto-évaluation du travail d'équipe et de la communication en utilisant le Team Steps. Ça, c'est très connu pour le travail en équipe. Donc, c'est un questionnaire qu'on a donné avant et après l'expérience de CRM en simulation. Et on les a comparés. Donc, ça, c'était les étudiants. Et on a comparé l'évaluation des observateurs qui sont les instructeurs. Utilisant le Facilitator's Team Steps Performance Observation Tool, qui est aussi parallèle à l'autre. Et ça, c'était cette année. On a eu 125 élèves qui sont tous des seniors, revenant de plusieurs professions, et les résultats qu'ont prévu, les connaissances des participants n'ont pas trop changé, mais ce qui a changé, c'est surtout leur communication et leur travail en équipe qui se sont améliorés. C'était eux qui ont trouvé ça, mais aussi les instructeurs qui ont aussi décelé ceci. Voilà ce qui se passe au Liban.
Donc maintenant, je vais passer à la formation continue. Donc, repassant en fait à mon travail en Angleterre, j'avais eu une bourse régionale de Strategic Health Authority, mais en fait c'était une bourse qui venait en fait seulement pour du budget paramédical. Donc j'avais le droit de faire venir, il y avait 400 places qui avaient été payées à l'avance pour le personnel paramédical pour faire les formations, pour faire des formations en CRM, en sûreté des patients, dans le centre de simulation. Bon, après, on avait réussi à négocier pour dire on ne peut pas faire la simulation sans aussi impliquer les docteurs. Mais le budget pour les docteurs avait déjà été dépensé, mais en fait, on a réussi à négocier pour utiliser pour les deux. Donc, j'ai formé des formateurs des hôpitaux de la région, qui étaient juste au nord de Londres, et après, je les ai fait inviter des équipes, des vraies équipes qui travaillent déjà ensemble de leurs hôpitaux. Donc on a eu des équipes obstétriciennes, des équipes de bloc opératoire, de chirurgie dentaire, des urgences. Donc toutes ces équipes sont venues entières, multiprofessionnelles, au centre de simulation. Au début, on essayait de faire des journées entières, mais c'était trop difficile au niveau du planning. Donc après, on faisait des demi-sessions. On a réussi donc à écouler tout ce budget dans le temps imparti et donc à faire de nombreuses sessions. On avait collecté du feedback de tous les participants. Par contre, on n'a jamais réussi à mesurer en fait l'impact qu'il y a eu dans les services cliniques. Mais en tout cas, au niveau de l'équipe, des formateurs qui ont été rassemblés, ça a vraiment changé la dynamique entre les formateurs. Les formateurs se sentaient beaucoup, beaucoup mieux, ils sentaient qu'ils avaient gagné des connaissances en ayant facilité les sessions eux-mêmes. Et donc toutes les sessions avaient bien sûr une présentation au début sur Team Steps aussi qui était utilisée et les principes de CRM. Dans le contexte au Qatar, c'est pareil. En fait, quand je suis arrivé, on a aussi donc rebasé tout sur le travail de simulation que j'ai fait en avant. Donc le CRM et Human Factors est intégré dans tous les cours que l'on fait avant de commencer la simulation. Donc RRT is Rapid Response Teams. Donc dans l'hôpital, on utilise QES, Qatar Early Warning Scores. Donc quand les patients ils voient qu'ils commencent à se détériorer, bon, avant qu'il y ait un crash, ils appellent les RRT. Et pareil, on fait un cours tout à travers la simulation pour former les équipes de RRT. ECMO, très impliqués depuis les 4 dernières années, depuis qu'on a, avant qu'on commence à offrir le service d'ECMO, on a formé une équipe multiprofessionnelle par la simulation entièrement. Le CRM est toujours un élément clé, parce que c'est ce qui est en fait beaucoup discuté après, pendant le debriefing, et aussi pour les transferts de patients haute acuité. Je fais aussi maintenant beaucoup d'exercices simulation sur table, je crois qu'on peut dire, à échelle nationale, donc très multiprofessionnel, avec parfois 150 participants, 8 hôpitaux, les 999, le call center, les équipes d'ambulance, et donc en fait c'est une grande échelle mais sur table. Il y a pas vrai, les patients sont juste des cartes principalement. Et aussi, on fait attention à tous les principes de CRM, de communication, de gestion des ressources et tout ça. Donc, c'est assez critique. Donc, vraiment, les prérequis pour l'utilisation ou l'apprentissage des principes de CRM en simulation, déjà, c'est d'avoir le support du management, parce qu'il faut réussir à implémenter ces sessions qui, en fait, les apprenants dépendent de différents corps de profession, donc différentes structures de management. Donc il faut que tout le monde soit en accord pour libérer, que ce soit les étudiants ou les professionnels, pour qu'ils viennent à ces sessions. Besoin de former aussi une équipe de formateurs qui soient multiprofessionnels. Mise en valeur réciproque des professions de santé, donc l'importance du respect. Et point critique, en fait, c'est avoir des apprenants au bon niveau. Donc, quand c'est pas pour l'apprentissage des gestes techniques ou du traitement principalement, c'est le travail en équipe. Donc, il faut déjà qu'ils aient des bonnes connaissances. Donc, on se concentre sur les étudiants de dernière année pour qu'il y ait une plus grande panoplie de scénarios auxquels ils puissent prendre part et intervenir, prendre des décisions. Bon équipement audiovisuel, en fait, pour permettre le plus grand impact des sessions, pour qu'il y ait plus d'observateurs. Vraiment, pour que ça marche, en fait, à cause des coûts d'impliquer et du temps, c'est plus facile d'essayer de faire du grand volume par l'observation, tout en maintenant la qualité de l'expérience sur la plateforme de simulation, même si c'est en plus petit groupe. Orientation au principe de CRM au début de la session, faisant part du briefing de la session et suivi du debriefing approfondi. Donc en fait, les trois cercles, il y a un focus sur la préparation des individuels, cultivating la collaboration, ensuite on espère améliorer les services donnés aux patients. Autre considération, un projet que j'avais fait avant de faire avec les étudiants de dernière année, on avait fait un pilote où on avait mis en paire des étudiants de soins infirmiers, des étudiants de médecine qui aussi allaient dans les mêmes hôpitaux que nos étudiants de l'université, et on les faisait suivre ensemble, observer des patients, donc ils voyaient le rôle de chacun. Après, les docteurs ont appris des gestes aux infirmiers, les infirmiers ont appris des gestes aux docteurs, et ils ont vraiment, par cette expérience, appris à apprécier l'effort des autres. Et après, ces mêmes pairs, on les a fait participer à des sessions de simulation. C'était, donc, ces étudiants, ils étaient assez jeunes, début de la vingtaine, et c'était un peu comme matchmaking, c'était assez amusant, en retrait, de voir les affinités qui se créent. Mais les étudiants avaient vraiment apprécié l'expérience. Mais pareil, il n'y a pas la parité au niveau du nombre d'étudiants en médecine et en soins infirmiers, donc c'était juste un pilote, parce que les nombres ne sont pas égaux. En conclusion, introduire CRM par la simulation n'est pas impossible, mais il faut ajuster les pratiques afin de faire face aux coûts et au volume d'étudiants. Donc même ça veut dire que tous n'ont pas l'opportunité d'actuellement prendre part au scénario, il y a maintenant la recherche qui montre que l'observation active et prendre part au debriefing va leur permettre d'acquérir les mêmes connaissances que des étudiants qui ont actuellement fait les gestes pendant, et les, pris les décisions pendant, pendant la simulation. Il y a différentes formes. Tout n'a pas besoin d'être fait avec les mannequins ou des patients simulés. Il peut y avoir aussi la simulation mentale ou des exercices sur table de discussion. Les observateurs peuvent bénéficier autant que les participants. Debriefing est clé, quelle que soit la forme de simulation adoptée. Et il est très important que les debriefeuses représentent les candidats, les participants, pour qu'ils s'engagent et qu'ils sentent qu'ils puissent aussi prendre la parole et qu'ils vont être écoutés par les formateurs, par les facilitateurs. Merci.
Merci beaucoup pour votre présentation. Si vous voulez bien, on va regrouper les questions en fin de séance, puisque effectivement les trois sujets s'emboîtent les uns dans les autres.